Il est 8h.
Je me déplace beaucoup dans nos établissements scolaires et ce qui est très clair, c'est que le protocole sanitaire de l'éducation nationale n'est pas à la hauteur et pas suffisant.
La charge de Laurent Wauquiez, il y a un quart d'heure en direct, de retour dans le débat public, c'était sur Europe 1 ce matin, pour appeler à la purification de l'air dans les écoles et aussi, on l'entendra, à la suppression des charges des petits commerçants pendant le confinement. À quelques heures d'une nouvelle conférence de presse du Premier ministre, vous verrez comment dans certaines professions, on est parfois contraint à enfreindre les règles sanitaires. Dans ce journal, le porteur de mallette retourne sa veste, Ziad Takieddine, innocente Nicolas Sarkozy de tout financement libyen de sa campagne de 2007. Les astuces des scientifiques pour nous faire aimer les menus sans viande et donc moins polluants. Et puis le croisement entre un vieux loup de mer et un gamer, eh bien c'est un participant à Virtual Regatta, ce jeu vidéo simulateur du Vendée Globe où des centaines de milliers de joueurs affrontent avec plaisir la première, la deuxième vague et toutes les autres.
Le premier bilan du confinement ce soir avec Jean Castex, la crise sanitaire et la crise sociale. Qui va payer le quoi qu'il en coûte? Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, répondra aux questions de Sonia Mabrouk. À 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sur le papier, le reconfinement annoncé il y a 2 semaines par Emmanuel Macron ne devait pas paralyser le pays.
L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer.
Injonction présidentielle qui se heurte à la réalité des protocoles sanitaires.
On entendait il y a une demi-heure ces concessionnaires autorisés à vendre des voitures que les clients n'ont même pas pu tester. Ou encore, dans le journal de 7h, ces libraires qui prennent des pseudo-commandes par téléphone avec le client juste en face d'eux, de l'autre côté de la vitrine.
Oui, c'est tout le problème d'une période où de nombreuses professions se mettent en mode survie, quitte à franchir la ligne jaune. Prenez l'immobilier, par exemple. Vous avez le droit d'aller chez le notaire ou à la banque, mais visiter un logement est interdit.
Une règle que certaines agences contournent, c'est simple comme un coup de fil. Qu'Élise Dangean a pu passer pour Europe 1.
Oui, allô ?
Oui, bonjour. Je
bonjour.
Vous appelle par rapport à une annonce d'un appartement métro Blanche.
Oui.
Après avoir demandé quelques informations sur l'appartement parisien que je prétends vouloir acheter, je pose la question, vais-je pouvoir le visiter ? Rire gêné de mon interlocutrice. Visiter d'ores et déjà ou comment ça se passe ? Qui va finir par accepter sans grande difficulté ?
Je vais faire des vidéos, je vous les enverrai. Si ça correspond à ce que vous cherchez, à ce moment-là, on s'arrangera.
Donc concrètement, on pourrait éventuellement avoir une visite.
Oui, au moins que vous baladiez dans l'appartement.
Et si certains agents immobiliers en arrivent là, c'est qu'ils savent pertinemment que les visites virtuelles ne suffisent pas. Yann Géhanneau, président du réseau La Forêt, n'approuve pas la pratique, mais partage le constat.
Lorsqu'on cherche un bien à la vente ou à la location, on a besoin de pousser les portes, d'ouvrir les fenêtres, de visiter son quartier, de constater la luminosité au niveau sonore d'un logement, ce que ne permet pas aujourd'hui la visite virtuelle.
Alors pour ceux qui seraient tentés d'aller au-delà du virtuel, le gouvernement promet les contrôles seront renforcés.
Et le gouvernement, il tient comme promis son premier point d'étape du reconfinement. On a l'habitude maintenant, conseil de défense ce matin à l'Élysée, conférence de presse ce soir 18h du Premier ministre.
On va juste mettre ce matin 2 chiffres côte à côte. Le nombre de patients hospitalisés pour Covid, 32 300 lors du pic de la première vague en avril. 31 900 aujourd'hui, c'est presque pareil, mais il y a une bonne nouvelle. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Vous allez nous l'expliquer, le R effectif qui vient de passer en dessous de 1.
Oui, ce taux de reproduction est de 0,93 au niveau national et quand ce fameux R descend en dessous de 1, ça veut bien dire que l'épidémie régresse. 10 personnes en contaminent seulement 9 actuellement. Ces 9 n'en contamineront à leur tour que 8 demain et vous comprenez bien la baisse dans le temps. Pas de miracle immédiat en revanche dans les hôpitaux, comme il y a un décalage dans le temps entre la contamination et l'apparition d'une forme grave de la maladie. Les services de réanimation vont continuer à se remplir dans les 3 prochaines semaines au moins. Et la mortalité elle aussi va bondir. Est-ce que ces indicateurs encourageants permettront d'atteindre les 5000 contaminations quotidiennes, le seuil fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement ? Sur ce point, il faut être très clair, la réponse est non. On en sera même assez loin, affirme la plupart des épidémiologistes.
Alors Victor, si on compare à nouveau à la première vague, la carte de France du virus a bien changé.
Oui, la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien l'épicentre actuellement de l'épidémie. Suivent les Hauts-de-France et l'Île-de-France. En revanche, il y a moins de contaminations en Nouvelle-Aquitaine et dans le Grand Est, particulièrement touchés lors de la première vague. Comment expliquer ces différences d'un territoire à un autre ? Il y a d'abord le froid, un argument sur lequel insistent beaucoup de spécialistes ces dernières semaines. Il y a aussi une autre explication qu'avance Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Il y a eu aussi une sensation de se dire qu'on était protégé
dans les endroits qui avaient été les moins touchés, et donc une certaine inconscience et insouciance face au risque de contamination.
Difficile de quantifier cette insouciance, mais nul doute qu'elle a participé à une transmission silencieuse du coronavirus.
Victor Dolande.
Et cette région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est présidée par un homme qu'on n'avait plus du tout l'habitude d'entendre.
Laurent Wauquiez, quasi muet, en effet, depuis sa démission de la tête des Républicains il y a presque un an et demi, eh bien, il était en direct sur Europe 1 il y a 20 minutes avec un appel lancé à quelques heures de la prise de parole du Premier ministre.
La situation des commerçants est terrible. Ce qu'il faut que le gouvernement décide, c'est la suppression des charges. Parce que sinon, on va amener les commerçants petit à petit à la mort. Reporter les charges, leur faire des emprunts, c'est pas ça qui va les sauver. Il faut adopter un principe très clair. En période de confinement, pas de charges. Et la deuxième chose, parce que celle-là, c'est ce que j'attends ce soir, c'est qu'il y a un discours de vérité. Et je pense que dans cette période, il vaut mieux privilégier un discours de clarté, de vérité, de courage, plutôt que de faire semblant de dire aux gens « Vous inquiétez pas, peut-être que dans 10 jours, alors, tout va revenir à la normale. »
Justement,
la situation, elle est grave et il faut qu'on la traite comme ça.
Laurent Wauquiez, invité de votre tête-à-tête, Mathieu, à 7h40.
Entretien avec Laurent Wauquiez qui s'était fait vraiment très discret, hein, je le souligne à nouveau, c'est à retrouver en intégralité sur europe1.fr.
Alors attendez-vous ce soir à entendre parler de télétravail. Jean Castex va insister sur son utilité contre le virus. Olivier Samin, peut-il aller encore plus loin ?
Serrer la vis, non, mais maintenir la pression pour que là où ça freine encore, le télétravail se déploie. Pour identifier ces endroits où ça freine encore, le ministère du Travail a fait faire un sondage la semaine dernière. 15% des salariés disent « je pourrais télétravailler, mais mon employeur s'y oppose ». Et 27% disent « ma hiérarchie me demande de revenir de temps en temps sur site, alors que mon poste permet le travail à distance 5 jours sur 5 ». Attention, prévient le ministère. Dans sa dernière version, le protocole sanitaire fixe un objectif très clair. Télétravail partout où c'est possible. Et les entreprises qui s'en écartent pourraient voir leurs responsabilités engagées sur la base du non-respect de l'obligation de protéger la santé et la sécurité des salariés. La consigne qui est donnée aux inspecteurs du travail, c'est de rappeler cette règle dans les entreprises et de jouer un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des employeurs. Pour l'entourage d'Elisabeth Borne, c'est vraiment s'il y a une mauvaise volonté manifeste que les inspecteurs doivent passer au cran supérieur, la mise en demeure. Il y en a déjà eu quelques-unes. Et la pratique montre que, dans 9 cas sur 10, les entreprises mises en demeure rentrent dans le rang.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Les annonces du Premier ministre à suivre ce soir au fil du 18-20 de Julien Bugier sur Europe 1.
8h08, le mot de stupéfaction écrit par Nicolas Sarkozy sur sa page Facebook. Il y a de quoi après le spectaculaire revirement de Ziad Takieddine.
L'homme d'affaires franco-libanais retire ses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Il l'a dit à Paris Match et BFM TV.
Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Turner a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou j'ai toujours dit. Il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Jamais.
Bonjour Chloé Triomphe.
Bonjour.
Une déclaration totalement contradictoire avec ce qu'il avait déclaré jusqu'ici.
Oui, c'était le mois dernier seulement et le même Ziad Takieddine, apprenant la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, avait fait savoir que selon lui, la justice allait, je cite, « dans la bonne direction ». Aujourd'hui, c'est donc une volte-face, puisque l'homme d'affaires, lui-même mis en examen dans ce dossier, était jusqu'à présent l'un des principaux témoins à charge à l'encontre de l'ancien chef de l'État. Pour mémoire, Ziad Takieddine avait déclaré avoir remis 5 millions d'euros en provenance du régime libyen à Nicolas Sarkozy pour financer sa future campagne. Aujourd'hui, après avoir maintenu cette version plusieurs années, il accuse le juge d'avoir détourné ses propos. En tout cas, ce rétropédalage a conduit Nicolas Sarkozy à se féliciter hier sur les réseaux sociaux que, je cite, « la vérité éclate enfin ». Son avocat nous a confirmé hier soir qu'il allait contester la mise en examen de son client. Quant à Ziad Takieddine, il pourrait être à nouveau entendu par les juges pour acter sa position livrée seulement par presse interposée. Cela supposerait qu'il mette fin à sa cavale et se rende à la justice française qu'il a condamné dans une autre affaire, l'affaire Karachi, à 5 ans de prison.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1.
Les scientifiques nous le disent, rapport après rapport, réduire notre consommation de viande est une nécessité pour limiter le réchauffement climatique.
Oui, la recommandation c'est 150 grammes de charcuterie par semaine, hein, c'est 3 tranches de jambon, pas plus. Dommage pour la raclette, Mathieu. Et justement, pour nous aider à changer nos habitudes alimentaires sans trop nous bousculer, il y a cette étude des chercheurs de l'Institut de la Recherche Agronomique et de l'Environnement, Virginie Salmen.
Et oui, parce qu'on ne va pas passer aux haricots secs ou aux pois chiches du jour au lendemain, et les chercheurs le savent, donc ils partent des aliments qu'on mange au quotidien, pâtes, yaourts, biscuits, dont ils vont enrichir la recette en farine de légumineuses sans changer le goût, et comme ça, ils nous amènent progressivement vers plus de protéines végétales. L'un des chercheurs, Stéphane Valrand.
On essaie de réorienter un petit peu la population vers les aliments végétaux. On est tous d'accord entre nous, les scientifiques, c'est de rééquilibrer l'alimentation, c'est pas de substituer, de dire on arrête ça et on remplace par ça. Parce que ça, on sait que la population ne suivra pas si c'est un changement trop drastique. Et de toute façon, ce n'est pas souhaitable au niveau du maintien de l'état de santé.
L'objectif premier, c'est qu'on les achète. Donc on trouve ça bon, même très bon, ces pâtes à 40% de légumineuses. Elles ne doivent pas coûter plus cher que les autres. Et nous permettre non pas d'arrêter la viande et la charcuterie, mais de rééquilibrer nos assiettes pour arriver à 50-50 entre les protéines animales et les protéines végétales. Les scientifiques de l'INRAE travaillent aussi à des yaourts avec du lait de vache et des protéines de fèves. Tous ces produits de la recherche devraient arriver dans les rayons des magasins d'ici 1 ou 2 ans.
Virginie Salmen.
Le sport à hauteur de smartphone, mais avec les frissons du Vendée Globe.
Oui, enfin, pas besoin de fragmenter son sommeil ni de se rationner sur le ragoût lyophilisé. Encore que, certains adeptes du jeu vidéo Virtual Regatta, qui est un simulateur de cette course à la voile, vont assez loin dans la passion.
Pour Europe 1, Jean-Luc Boujon a rencontré à Mâcon, en Saône-et-Loire, une sorte de skipper de salon.
Michel, 71 ans, est un passionné de voile. C'est la troisième fois qu'il participe à ce Vendée Globe virtuel. Son ordinateur trône sur la table du salon. Sur l'écran, le bateau de Michel au milieu de toute la flotte qui navigue au large du Portugal. On s'y croirait.
Là, actuellement, je suis dans une zone où il y a un vent de 13 nœuds. Là, je suis obligé d'être tribord amure, d'avoir le vent sur la droite. Par contre, si je vire, je vais avoir le vent qui va venir sur l'autre côté de la voile. C'est rigolo parce qu'on court avec les stars. Là, c'est le cam.
Michel, même carrément devenu accro.
Cette nuit, à 4 heures, je suis venu voir ce qui se passait, j'ai ajusté mon cap, paf, là, tac, là, voilà, là je suis dans le rouge, donc j'avance plus du tout.
Et pour améliorer ses performances, on peut modifier son bateau.
J'ai choisi dans les options des foils pour aller plus vite.
Une passion qui devient contagieuse pour Monique, la femme de Michel.
Je l'ai fait installer sur mon ordinateur parce qu'il l'avait que sur son téléphone jusqu'à maintenant. Donc là, sur l'ordinateur, je vais voir. Puis de temps en temps, je lui dis, dis donc Michel, là, voilà, j'interviens. On a un équipage, oui, comme dans la vie en fait.
Ouais. Hein. Et effectivement, ils ne seront pas trop deux pour tenir la barre durant au moins 3 mois. Hier, le bateau de Michel était classé 72 millième sur plus de 600 000. Mâcon, au milieu de l'Atlantique. Jean-Luc Boujon, Europe 1.
C'est ce qui s'appelle être à l'ouest.
Mâcon, au milieu de l'Atlantique. Celle-là, je la retiens. Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.